Didier Pilon, depuis les studios de Radio Fidélité à Laval, en compagnie de Mathieu Ordonneau à la réalisation technique. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver pour peut-être vous faire découvrir un opéra qui est très important dans l'histoire de la musique, notamment la musique russe, puisqu'on dit toujours que Glinka est véritablement le père de la musique russe. Il faut dire que jusqu'à son travail dans les années 1830-1840, sur lequel je vais revenir, eh bien, la musique russe, elle est de deux manières, soit les chants des moines orthodoxes, qu'on entend quand on va évidemment dans les couvents ou dans les églises, soit la musique traditionnelle de danse. Mais il n'y a pas, si vous voulez, de musique savante russe, parce que ce sont les Italiens, ce sont les étrangers qui sont dans les cours de Russie. Et il faut attendre l'arrivée de Mikhaïl Glinka, qui va naître, si vous voulez, en 1804, et qui va mourir à Berlin en 1857 pour qu'on ait véritablement le début d'une musique russe. Je vais revenir sur les caractéristiques, mais il est évident, parce que d'abord ils le reconnaissent eux, que le fameux groupe des cinq, les fameux musiciens russes, notamment avec Rimsky-Korsakov, avec Moussorgsky, avec Cui, etc., eh bien, sont véritablement des descendants, en quelque sorte, de Mikhaïl Glinka. Et même Tchaïkovski se reconnaît aussi dans l'apport de Glinka, au point que, de temps en temps, quand j'entends la musique de Glinka, de ballet, j'ai l'impression d'entendre du Tchaïkovski. Mais ce qui est important, c'est que c'est véritablement lui, et ça va être reconnu tout de suite par les Russes, comme en étant le père de la musique. Et pourtant, de la musique russe, bien sûr. Et pourtant, quand on écoute, même ne serait-ce que l'ouverture de cet opéra Rousseland et Ludmila, on est encore tout à fait dans le monde occidental classique. On voit que Glinka est allé dans toute l'Europe, qu'il a été l'élève de disciples de Beethoven. Et donc, on retrouve une musique très, très symphonique occidentale. Il suffit justement d'écouter l'ouverture de cet opéra qui est très important. Rousseland et Ludmila, je vais y revenir, mais c'est d'après un conte d'Alexandre Pouchkine. C'est là où justement on est tout de suite dans le cœur même de la Russie. On va prendre un conte fantastique tel qu'on les raconte et qu'on les aime en Russie, avec un livret, je vous l'ai dit, emprunté à Alexandre Pouchkine. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter la très belle ouverture, très occidentale finalement, de ce Rousseland et Ludmila, qui est pleine de verve, qui est pleine de force et qui annonce véritablement enfin la musique russe. Thank you. La très belle ouverture de l'opéra Rouslan et Ludmila de Glinka, interprétée ici par le grand orchestre du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, sous la direction de Valery Gergiev. Alors, je vous l'ai dit, c'est véritablement le premier opéra russe, finalement, avec un autre ouvrage qu'avait composé quelque temps auparavant Glinka, qui s'appelait « Une vie pour le tsar ». Eh bien, avec Rouslan et Ludmila, on va avoir le cocktail qui va faire que on retrouve bien toute l'âme russe, avec notamment un argument qui est dû à Pouchkine. C'est un conte fantastique. Et Glinka, il faut le savoir, quand il est né, eh bien, en 1805, dans une petite ville pas très loin de Moscou, de Saint-Pétersbourg, pardon, il va perdre son papa très vite, qui est colonel et qui meurt pendant les guerres napoléoniennes, de sorte que c'est sa grand-mère paternelle qui va l'élever et qui va lui faire apprendre le violon, le piano. Et très vite, le jeune homme, lorsqu'il aura 13 ans, eh bien, va partir dans la toute nouvelle pension de la noblesse qui a été ouverte à Saint-Pétersbourg. Et c'est là où il va devenir ami avec un frère de Pouchkine qui s'appelle Lev Pouchkine, mais qui va lui donner l'occasion de rencontrer le grand Alexandre Pouchkine, qui va devenir évidemment excessivement célèbre. Et c'est ainsi que, eh bien, très vite, Glinka aura pour idée, comme projet, de prendre un conte de Pouchkine. Malheureusement, Pouchkine ne pourra pas l'aider, puisque quelque temps avant la création de l'opéra en 1843, eh bien, il mourra des suites d'un duel avec son beau-frère. Si bien que ça n'est pas Pouchkine qui a arrangé le livret, mais c'est Valerian Chirkov, mais bien sûr, d'après encore une fois, le conte de Pouchkine. Alors, ne cherchez pas à y trouver quelque chose de logique. C'est russe, il y a plein de démons, etc. Et vous allez voir que l'histoire est un petit peu compliquée. Lorsque le rideau s'ouvre, nous sommes à Kiev. Petite digression pour vous rappeler quand même que, en effet, la Russie est née à Kiev. Hein, elle n'est pas née à Moscou. Donc on est dans un banquet de noces à Kiev et il y a un prince qui a une très belle fille qui s'appelle Ludmila qui doit épouser le chevalier Rouslan. Et c'est en quelque sorte le banquet des fiançailles que nous allons entendre. Mais il va y avoir un barde. Celui que nous allons entendre, il va raconter une histoire. Il va raconter un peu une histoire qui va être celle de Rouslan et Ludmila avec une jeune fille et un jeune homme qui s'aiment, mais la jeune fille va être enlevée, ça va être très compliqué. Et donc, à la fin de ce récit du barde, Boyan, eh bien, Ratmir, le prince kazakh, et Farlaf, le chevalier viking, qui sont aussi amoureux de la princesse Ludmila, se disent « Ah, ben on a peut-être quand même finalement toute notre chance ». Donc je vous propose de partir donc à Kiev dans ce fameux banquet où nous allons entendre d'abord la très belle voix de ténor du barde. Je précise, parce que ça peut décontenancer, que le héros de l'opéra, Rouslan, c'est une basse qui va chanter. Donc quand vous entendez la basse, c'est le héros Rouslan, et la belle voix de ténor que vous allez entendre au début, c'est le barde justement qui raconte une histoire qui est celle finalement qui va arriver à Rouslan et Ludmila. Thank you.
Charlie. сегодня для меня. Песни не страшны, кроме крики полнее, куда косяк. А во перу устранее нас.
Voilà donc le début de cet opéra, Le Banquier de Kiev, et vous avez entendu tout de suite l'importance du chœur. C'est ce qui fait déjà une des spécificités finalement des grands opéras russes, c'est la présence du chœur. Très important, personnage à lui tout seul qui représente le peuple russe. Alors, après le banquet, donc, la jeune fille, Ludmila, doit laisser son papa qu'elle adorait à Kiev et elle va chanter ce qu'on appelle une cavatine, un très bel air avec des vocalises où elle dit finalement le chagrin qu'elle a de quitter son père, ce qui, entre parenthèses, va rassurer encore les deux malheureux prétendants que sont, je vous le rappelle, le prince Khazar, Ratmir, et le chevalier viking, Farlaf. Et on entend cette musique, on pense immédiatement à Verdi parce que, je vous l'ai dit, eh bien Glinka, lui, va aller dans toute l'Europe et va écouter beaucoup des opéras italiens. Et moi, quand j'entends cet air-là, j'ai l'impression finalement d'entendre de l'opéra italien. Donc au moment où la jeune fille dit la douleur qu'elle a de quitter finalement la ville de Kiev et son papa.
Thank you.
Très belle cavatine de la princesse Ludmila qui redit encore la tristesse de quitter son pays. C'était la grande Anna Nebretko qui interprétait le rôle de Ludmila. Et on arrive tout de suite au final de l'acte 1, au moment donc où pendant ce banquet va arriver un vilain sorcier de Tchernomor et qui va avec ses esprits créer une telle confusion qu'il va pouvoir partir en ayant enlevé la belle princesse Ludmila.
Yes, 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 yes
Entendez les applaudissements, puisque c'est un enregistrement qui a été fait en live, comme on dit, au fameux théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le final de l'acte 1, au moment donc où la princesse Ludmila a été enlevée et où les trois prétendants, dont son fiancé, mais aussi le prince kazakh et le chevalier viking, vont partir à la recherche de la belle princesse qui a été enlevée. Si vous prenez en cours cette émission sur Radio Fidélité, je vous rappelle qu'en compagnie de Mathieu Ordonneau, nous évoquons le premier grand opéra russe avec Ivan Soussanin, toujours signé de Glinka, ce fameux Rousseland et Ludmila, d'après un conte fantastique de Pouchkine. À l'acte 2, eh bien, il y a un bon sorcier, il y a beaucoup de sorciers, des méchants, des vilains et des bons, mais là c'est un bon sorcier, Finn, qui explique à Rousseland comment finalement peut-être gagner, retrouver la princesse qui a été enlevée par le vilain sorcier Tchernomor. Il lui dit, il faut que tu trouves une épée, et cette épée-là va peut-être te permettre eh bien, de retrouver ta bien-aimée. C'est une tête très compliquée, l'épée en fait eh bien, est caché sous une tête du frère du vilain sorcier. Tchernomor a tué son frère pour garder une épée magique, et l'épée magique, eh bien, elle est restée sous la tête de cet autre sorcier. Et Rousseland, eh bien, va dialoguer avec la tête pour essayer, en la tuant, eh bien, d'arracher l'épée qui est sous elle et partir ainsi avec une épée magique. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est ça les contes, c'est ça qui est fantastique. On y va et on écoute justement la très belle scène finale où la tête va mourir, mais en donnant finalement l'épée magique dont va se servir par la suite Rousseland. Le final de l'acte 2 de ce Rouslan et Ludmila avec une histoire de Pouchkine et une musique de Glinka. Alors on arrive à l'acte 3 où finalement eh bien, il va y avoir la vilaine sorcière. Bah oui, il y a un vilain sorcier, il y a une vilaine sorcière qui s'appelle Naina et qui avec des sirènes va essayer encore une fois de séduire le pauvre Rouslan qui est toujours à la recherche de sa belle Ludmila. Je vous propose d'écouter tout de suite donc ce fameux chœur perse avec encore une fois la vilaine sorcière Naina qui est la cause finalement de tout ce tracas. Les sirènes et la vilaine sorcière Naya donc essaient à la fois de séduire Rouslan, le chevalier, mais aussi le prince Ratmir, qui lui aussi cherche de son côté la belle princesse Ludmila. Et donc, tout ceci allait mal se terminer, mais heureusement, le bon sorcier Finn apparaît, il va faire disparaître le mirage des belles vierges qu'on vient d'entendre chanter, et il va renvoyer Ratmir pour retrouver une autre femme qui s'appelle Gorislava. Et quant à Rouslan, eh bien lui, il doit retrouver Ludmila, et d'un dernier coup de baguette magique, eh bien, le bon sorcier Finn va faire disparaître le château des mirages.
Маглис пасты онеге, высокий подвиг позови. Внимайте же, ой, вам судьба свои веления объявляет. Живой надеждой над мир не пленяйся, счастье с одной горе славой найдет. Ты, Людмила, подругой Руслана, так решено, в ней
le final de l'acte 3, donc, où tout a disparu. Pendant ce temps-là, eh bien, à l'acte 4, on retrouve la princesse Ludmilla qui est désespérée, qui est apprête à se noyer, mais heureusement, des sirènes arrivent, lui disent ne pleure pas, tu vas être sauvée. Finalement, Ruslan viendra te chercher, mais elle reste finalement inconsolable, inébranlable, et donc, elle finit par tomber dans un sommeil total, un sommeil magique. C'est un peu l'histoire de la Belle au bois dormant. Quand arrive à ce moment-là, le vilain sorcier Tchernomor, qui est une sorte de nain barbu, et qui rentre avec sa suite et qui ordonne le début des grandes danses que nous n'écouterons pas, mais dans une autre émission, on pourra les écouter. Donc tout de suite, j'allais dire presque l'arrivée du vilain nain Tchernomor. Et voilà donc cette fameuse marche du vilain sorcier Tchernomor qui va être battu, tué même dans un combat singulier avec le beau chevalier Ruslan. Et c'est ainsi que nous arrivons au final de l'acte 4. Eh bien, Ruslan va mettre sur son casque la barbe magique du vilain sorcier Tchernomor, mais malheureusement, il a beau faire, il ne réussit pas à réveiller la princesse Ludmilla, qui, je vous le rappelle, est tombée dans une sorte de coma, de sommeil très profond. Et donc, avec le prince Ratmir, qui finalement va aimer une autre femme, il décide de ramener la princesse à Kiev pour la délivrer du sortilège. C'est le final de l'acte 4.
Thank you. казачизму, Кудесника в сильных зрём, и к радости вновь оживём, и справим печальную тризму.
Скорее на полдень пойдём, и там на Киевском реке Кудесника в сильных зрём, Кудесника в сильных зрём, и в жизнь жили, и снова позовём. Жизни, где жду вас зовем.
Le final de l'acte 4 de cet opéra russe, Rousseland et Ludmila, musique Glinka, d'après, encore une fois, un conte fantastique d'Alexandre Pouchkine. Et on arrive au dénouement. Il se passe encore plein de choses. Je ne vais pas vous les raconter parce qu'on va se perdre dans le dédale de cette histoire. Mais ce qu'il faut, c'est que eh bien, les serviteurs de Tchernomor arrivent, du vilain sorcier. Ils annoncent que Ludmila a été enlevée. Rousseland va partir sur ses traces. Le gentil sorcier, depuis le début, Finn, déclare que c'est la vilaine Naya qui est responsable. Et alors, il va donner à Rousseland un anneau magique. Et c'est cet anneau magique qui va réveiller la princesse. Quand Rousseland va arriver, il va se mettre à genoux et il va passer l'anneau magique dans le doigt de la princesse Ludmila qui va se réveiller. Et à la fin, eh bien, tout se termine bien. Le peuple loue les dieux. Rousseland est heureux de sa princesse. Et surtout, et c'est là le début, encore une fois, de la musique russe, tout le monde chante la patrie, la mère Russie, qui est véritablement la plus forte dans cette histoire. Donc tout de suite, le très beau final qui reprend l'ouverture de ce Rousseland et Ludmila de Glinka.
Thank you.
le très beau final de cet opéra en 5 actes et 8 tableaux de Mikhail Glinka, Rousland et Ludmila. Je vous le rappelle, d'après un conte fantastique d'Alexandre Pouchkine, le livret tendu à un adaptateur qui s'appelle Valerian Chirkov. Vous avez pu entendre dans le rôle du grand prince de Kiev, Mikhail Kit, dans celui de Ludmila, la princesse Anna Nebretko, dans le rôle de Rousland, le chevalier de Kiev, le fiancé Vladimir Onyovenko, le prince kazakh Ratmir Larissa Dyatkova, la jeune esclave amoureuse de Ratmir Gorislava, eh bien c'est Galina Gorshakova, le sorcier fine, le bon sorcier bienveillant Konstantin Plouznikov, et enfin le barde du début de l'opéra, Bayan, était chanté par Yuri Marouzine. Je rappelle que les chœurs et l'orchestre du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg étaient placés sous la direction de Valérie Guerriev. J'espère qu'en compagnie de Mathieu Ordonneau, vous avez été heureux de découvrir ce premier, finalement, des grands opéras russes.